Oui, ça fait tellement de bien d'entendre les colocs et la voix de Dédé, inoubliable Dédé, qui est le titre de la BD de Christian Quesnel, qui est en studio. Bonjour, Christian Quesnel.
Bonjour, merci de me recevoir.
Ça nous fait vraiment plaisir. C'est une BD qui est publiée aux éditions Libre Expression et dès qu'on voit la page couverture, même si le nom n'avait pas été là, on le sait que c'est Dédé. Est-ce que c'est vous qui avez choisi cette page couverture? On va l'expliquer, là. Ce sont les fameuses lunettes que Dédé portait, sur son front. Il disait pour retenir ses cheveux ou avoir l'air cool, là. C'est ce qu'on apprend aussi dans la BD.
Oui, puis en plus, son gilet rayé de la première époque aussi,
C'est
qu'il y avait
vrai.
souvent. Je me suis servi un peu de la figure iconique de Dédé Fortin pour illustrer la couverture, pour que les gens, dans le fond, la bande dessinée, c'est ça la magie, c'est que le lecteur comble les vides. Puis en proposant juste des lunettes, en montrant pas le visage d'André Fortin dessus, chacun peut se l'imaginer de la façon qu'il se l'approprie, puis c'est ça, les Québécois se l'ont approprié totalement.
C'est vrai. Et ça a été quoi votre intention derrière ce projet-là? J'ai lu que vous étiez pas nécessairement un fan de Dédé Fortin, mais qu'est-ce qui vous a poussé à créer cette BD?
Ben, c'est mon amitié avec Lise Raymond, en fait, qui est mon attachée de presse, qui était l'attachée de presse des colocs à l'époque, qui a connu André. Lise, dans un premier temps, j'ai sorti un livre qui s'appelle Félix Leclerc aux éditions
Ouais.
de l'Homme en 2019. Puis Lise, à l'époque, elle m'avait contacté. On avait déjà travaillé ensemble sur un autre livre auparavant. Puis elle me dit, écoute, tu devrais faire des panneaux interprétatifs sur Dédé Fortin comme des planches de bande dessinée qu'on mettrait dans le quartier des spectacles. C'était un de ces projets qui a pas pu, il a pas pu se faire, mais un an plus tard, on a travaillé sur Vous avez détruit la beauté du monde, qui est une étude universitaire sur. C'est 15 ans d'études universitaires sur l'histoire du suicide au Québec. Il y en était question, bon, d'André Fortin là-dedans, parce qu'il parlait des figures iconiques et tout ça. Puis à la fin de la promotion du livre, Lise me dit, écoute, tu devrais vraiment travailler sur Dédé Fortin. Fait que là, j'étais en train de travailler sur Mégantic à l'époque. Je me suis dit, ben pourquoi pas, c'est une belle continuité, un livre sur le suicide, ensuite un livre sur Mégantic, c'est des sujets sensibles. J'ai développé une façon, un langage qui est particulier, sensible par rapport à ça, puis comment je pourrais dire, avec beaucoup de retenue dans la façon d'illustrer les récits, tout en évoquant des choses, en mettant pas sous le tapis certaines choses, en les évoquant. Donc, pour moi, c'était un autre défi là, de travailler sur Dédé Fortin. Puis en plus, c'est un champ miné, Dédé Fortin, c'est un sujet qui est, oui, sensible, mais il y a plein de bisbilles autour de lui, tout ça. Fait que moi, ça m'a permis vraiment d'explorer des nouvelles façons de faire, puis de prendre des sentiers où, sans faire l'unanimité peut-être, mais j'ai réussi à faire un portrait le plus juste possible, sans complaisance, mais sans rentrer non plus dans les détails que des essais ou peut-être le film ont montré.
Sans rentrer dans les détails, pour rien provoquer, parce que vous parliez de bisbille ou parce que c'est votre manière de faire.
Parce que je suis rentré dans les détails de sa psyché. Ça, je pense que je suis allé assez loin dans. J'essayais en tout cas de rentrer le plus loin possible dans sa tête. Ses écrits, en tout cas, qui nous laissaient aller assez loin.
Oui, parce que vous avez eu accès à des documents très, très précieux, là, inédits même.
Personnel, des lettres qui traînaient dans le fond de certains garde-robes depuis 20 ans. Sauf que moi, je me pose toujours la question, est-ce que ça sert le récit? Est-ce que ça sert la narration? Autant je me pose la question pour les images, est-ce que telle image va servir la narration? Des fois, faire une image pour faire décoratif, pour faire beau ou un gadget, c'est pas nécessaire. Si c'est pas bon pour le récit, ben ça n'a pas sa place. C'est la même chose pour des détails de son historique. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été écrites sur lui, beaucoup de mon Dieu, pas des scandales, mais quand même des choses qui ont peut-être choqué certaines personnes. Si j'avais fait ça aurait enlevé le point de mire que je m'étais fixé, qui était de montrer c'était qui André Fortin, l'homme derrière l'icône. Ben, c'était ma ligne directrice
Vous
avec.
auriez pas appelé la BD André plutôt que Dédé?
Si j'avais appelé André Fortin, ça aurait laissé, comment je pourrais dire, un doute sur le fait que ça aurait pu être le député du Pontiac libéral.
Peut-être, oui. Oui, parce que quand on parle de Dédé, tout de suite, on pense à Dédé des colocs.
Oui, c'est ça, mais c'est vrai que le titre aurait pu être André, ça aurait dû être André Fortin, parce que c'est pas un livre. En fait, les colocs, c'est le véhicule.
Ouais.
Dédé, c'est l'artiste. Puis André Fortin, c'est l'homme. C'est vraiment un livre sur l'homme le plus possible. Les colocs, il n'y en est presque pas question à l'intérieur du livre.
Ouais. L'homme, on parle vous parlez de lui à partir de son enfance jusqu'à la fin de ses jours, et vous vouliez vous intéresser surtout à sa psyché à partir de témoignages et à partir de ses propres mots à lui.
Effectivement, moi, étant pas un fan, comme vous l'avez dit...
Vous n'étiez vraiment pas un fan, là. Vous êtes passé à côté de l'œuvre des couleurs?
Non, mais j'ai connu comme tout le monde. J'étais exposé à ça dans les années 90, puis c'est très, très emblématique de ma génération, génération X. Quand André est mort, Dédé Fortin est mort, c'était comme la fin de la récréation pour nous autres. Ça a été la fin comme de notre jeunesse.
Vous l'aviez senti comme ça à l'époque?
C'est comme ça que j'ai senti.
C'était puis en plus, il y a eu en mai 2000.
En mai 2000. Puis ouais. Un an après, il y avait le 11 septembre. Je veux dire, on a changé d'époque à un certain moment donné. Puis c'est, ça concorde dans ces dates-là. Le fait de choisir ses paroles à lui, c'était vraiment réfléchi. Parce qu'au départ, c'était le défi, comment je vais le faire parler? Parce qu'il y avait telle personnalité. Mais là, j'ai eu tellement accès à plein de lettres, à plein de documents, que je me suis dit, je vais faire émerger sa parole. Moi, je vais m'effacer le plus possible. Les seuls endroits où c'est moi qui ai mis du texte, vraiment de mon cru, c'est Université de Montréal, 1983, genre.
Ouais.
Donc, c'est vraiment, je voulais vraiment faire émerger sa parole à lui, puis à ses proches, à ceux qui l'ont aimé. Parce que le point commun de tous ces proches-là, aujourd'hui, il peut avoir des bisbilles entre plusieurs personnes, mais ils ont tous en commun qu'ils l'ont aimé.
Mm-hmm. Autant sa famille que ceux qui ont travaillé avec lui professionnellement parlant, les musiciens.
Ses amis, ses amoureuses, c'est vraiment... Oui. C'est sa vie, c'est une grande passion, en fait. C'est des grandes passions. Le cinéma compris, parce qu'on parle peu d'Eddie Fortin, le cinéaste, mais il était un cinéaste avant tout. Quand il expliquait sa musique, il passait par le langage du cinéma pour l'expliquer.
Mm-hmm. Il parle justement d'une expérience qu'il a faite, de tourner des vidéos. Je pense qu'il y en avait une trentaine.
30 vidéoclips en 30 jours.
Oui, qu'il a pas mal achevé. En tout cas, qu'il lui a drainé beaucoup, beaucoup d'énergie. Pour lui, l'énergie, c'était quelque chose qu'il voulait toujours avoir en lui. Là. Il voulait, comment il disait, je dompte cette énergie-là.
Oui, il essayait de la dompter.
De la dompter, mais c'était pas toujours évident. Il s'est fait... un peu avalé par, justement, le fait qu'il était si généreux, qu'il se donnait, qu'il faisait la fête et aussi l'amour, ça l'a usé, en tout cas. Lui.
Ben, cette générosité-là, doublée avec un grand sens des responsabilités, triplée avec des contradictions qui l'habitaient par rapport à son éducation, mais par rapport à son désir profond, ça l'a vraiment déchiré intérieurement.
Oui. Est-ce que vous avez fait appel à des psys pour essayer de comprendre la psyché de Dédé ou c'était plus en allant vers lui et les gens qui l'ont connu, qui l'ont aimé, que vous avez créé l'œuvre?
Je suis allé, j'ai quand même posé des questions à certains spécialistes qui m'ont parlé off the record, en fait, là, pour me dire que... c'est ce que vous venez juste de dire, ça, la pression, mm-hmm. Le fait qu'il était généreux, le fait qu'il voulait que les autres musiciens vivent bien.
Puis on sent le stress avant d'entrer sur la scène, ou s'il veut que les musiciens soient leurs meilleurs, et pour ça, il faut qu'il soit lui encore plus performant.
Puis après les spectacles aussi, il y avait aussi beaucoup de gestion, je veux dire, toute la logistique, c'était quand même un peu le chef de bande là, d'un groupe. Puis il fallait qu'il regroupe ce groupe-là, ces gens-là. Mais c'était pas toujours évident là à cette époque-là. Parce que certains étaient plus festifs que d'autres, on va dire comme ça.
Oui. Jim Corcoran, je sais pas s'il faisait la fête à l'époque, là, mais c'est quelqu'un qui nous semble un peu plus sérieux. À un moment donné, Dédé, vous racontez dans la BD, a voulu faire une chanson avec Jim Corcoran. Jim Corcoran n'a pas donné suite et il l'a regretté. Est-ce que c'est vous qui avez eu l'idée de lui demander de créer la préface de votre BD?
En fait, au départ, c'est Jim qui devait scénariser.
Ah oui?
Puis on s'est retrouvé, Jim, le timing n'a pas été bon ce fois-là, parce que Jim s'est retrouvé à réaliser l'album d'un jeune débutant, auteur, compositeur, interprète du nom de Gilles Vigneault. Donc,
il
ne pouvait pas refuser. Je me suis débrouillé avec la scénarisation, puis en fait, je suis bien content d'avoir fait la scénarisation finalement. Ça m'a remis dans le bain parce que j'ai déjà scénarisé d'autres albums de bande dessinée. Dans les dernières années, j'avais plus travaillé avec Anne-Marie Saint-Cerny, avec Ariane Gélina pour La Cité Oblique, puis avec les chercheurs à l'Université d'Ottawa pour Le Suicide. Mm-hmm. Je trouve que de revenir à ça, ça me permettait de il y a des allers-retours entre le texte et les images qui sont intéressants, puis qui peuvent se faire plus rapidement quand on est seul avec soi-même là-dessus. Puis Jim, après ça, oui, c'est sûr, j'ai demandé, puis Lise était contente aussi là, qu'il écrive la préface. La préface, ça y a pris du temps à faire ça. Là,
c'est pas long, mais c'est poignant.
Exactement.
Ouais.
Puis il y a plein d'allers-retours avec la bande dessinée aussi. C'est pas une préface qui se lit à part, là, c'est vraiment bien intégré. Là. Puis Jim, en tout cas, on a développé des liens d'amitié. On veut travailler ensemble sur un projet. Autour de Dédé Fortin, il regroupait les gens. C'est un rassembleur. Puis au-delà de la mort, il continue à rassembler. Et moi, Jim, c'en est un, mais je veux dire, Éric Jean, le metteur en scène, on travaille ensemble sur un projet en ce moment, mais je ne connaissais pas avant de travailler sur ce projet-là.
C'est Éric Jean, il en est question dans la bande dessinée, le
connu. Oui, il parle, oui. Ben, Éric Jean, c'était le colocataire de Sophie Lajoie qui a sorti 6 ans et demi avec André.
Un des grands amours de
Dédé. Oui, qui aurait aimé ça être là au lancement hier, mais qui vit en Belgique aujourd'hui.
Ah oui, bon, c'est une bonne raison. Mm-hmm. Le lancement, donc, a eu lieu hier à la librairie Monette. Il y avait... pas mal de monde, des gens de sa famille à Dédé qui étaient là.
Il y avait plusieurs personnes qui sont venues. Bon, il y a eu Célanie qui est venue, qui était sa dernière copine. Il y a eu sa sœur Sylvie, sa sœur la plus jeune, celle qui a volé le show 4 ans parce qu'elle est venue au monde. Elle a enlevé l'attention. Ça a un peu formé. Ça n'a pas laissé des traces. Ça a fait des marques carrément sur la personnalité de Dédé. Fait que c'est le fun de discuter avec elle.
C'est peut-être ça aussi, le fait qu'il ne soit plus la star de sa famille. Il a dit je vais être une star autrement.
Oui, ben je pense que en tout cas, il y avait quelque chose hier dans l'air qui faisait en sorte que c'était comme Lise pour elle, Lise Raymond, c'est boucler la boucle. Elle boucle la boucle Dédé Fortin à ce moment-ci. Ça, c'est comme ce livre-là pour elle. Après ça, elle va le garder de façon privée. C'était son ami, tout ça. Puis après, les entrevues, ça va être terminé. C'est ça qu'elle me dit. Remarque, elle peut faire une Dominique Michel d'elle-même, puis elle peut revenir à un moment donné, mais je laisse ça à ses soins.
Est-ce que ça vous fait plaisir d'entendre ça de la part de Lise, Raymond?
Ben, on a développé des liens d'amitié, puis je pense que cette confiance-là qu'elle m'a accordée dès le départ, ça m'a vraiment... Moi, en tout cas, ça m'a permis d'avoir un élan pour cette bande dessinée-là, parce que c'est un terrain miné, comme je le disais tantôt. Mm-hmm. C'est vraiment... je suis au courant, j'ai lu aucun essai, j'ai pas vu les films, mais je suis au courant de toutes les BSB autour de ça, puis il n'y a pas un projet qui a bien passé. Là.
Ça vous inquiétait?
C'était un peu inquiétant, puis je me suis dit, le médium de la bande dessinée, c'est un bon médium pour évoquer les choses et non pas les montrer, comme je disais tantôt. Fait que ça, c'est pour moi, c'est... En tout cas, Lise est au courant de cette capacité-là que j'ai avec les... parce qu'on a travaillé ensemble sur plusieurs albums. Fait que cette confiance-là, puis le fait qu'elle clôt la boucle avec moi, pour moi, c'est un grand geste, comment je pourrais dire, c'est au-delà de l'amitié, c'est un geste d'amour, dans le fond, c'est la confiance. Et moi, je trouve ça magnifique.
On va écouter une des chansons des Colocs, puis on revient tout de suite après. Juste une petite nuit d'Dédé, le grand amoureux, et je suis en compagnie de Christian Quesnel qui vient nous présenter la BD Dédé. Christian Quesnel, j'imagine que votre regard, votre façon d'écouter du Dédé a changé. Vous disiez que vous n'étiez pas nécessairement un fan de Dédé, que vous n'aviez pas vu le film là, qui parlait de lui, le documentaire, etc. Est-ce que votre vision de lui a changé au fil de la création de cette BD aujourd'hui?
Oui, c'est certain. Je ne le connaissais pas du tout. Je connaissais la figure iconique. Un peu comme je connaissais juste les événements mégantiques comme tout le monde avant de travailler sur Mégantic. Ça a été la même chose. Donc, je suis arrivé avec un regard quand même relativement neutre sur le personnage, bien qu'il ait marqué notre génération. Moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est d'entamer la recherche comme une enquête policière ou journalistique. C'est vraiment interviewer les gens, fouiller à travers les documents, puis faire une triangulation des informations pour vérifier l'exactitude des faits. Des fois, il y avait des dates qui ne concordaient pas, surtout dans les derniers jours. C'était assez particulier. Puis ses agendas, c'était comme dimanche 24 novembre. Oui, mais ça tombe quelle année? Il y a plein de petites choses comme ça qu'il a fallu aller chercher. Il a fallu que je me fasse dans mon studio, j'ai encore la ligne de vie de Dédé Fortin, de Ben d'André. Puis... là, je pouvais me situer à partir de ça.
Est-ce que ça a été long à faire, à réaliser, parce que la recherche a été quand même assez exhaustive?
Bien, ça fait 2 ans, en fait. Est-ce que c'est 2 ans de travail en continu? Je pense pas, parce qu'il y a eu de la recherche. Bien, c'est sûr que la recherche, elle m'est parvenue. J'ai pas été obligé de la chercher à compte-gouttes. Une grosse partie, je dirais 80% de la recherche, elle est arrivée dans les sacs avec Lise Raymond, directement de la famille. Mais les autres, ça a été des entrevues. Ça a été aussi des documents qui me sont parvenus de Belgique, parce que Sophie vit en Belgique aujourd'hui.
De une Célanie. Des amoureuses de Dédé.
Oui, puis Célanie, je dirais, m'a fait tellement confiance. Cette confiance-là, c'est aussi un poids à porter. C'est une responsabilité importante. Célanie est arrivée chez moi à Saint-André-Avelin. Elle est partie de Montréal, elle est arrivée à Saint-André-Avelin avec des lettres. Les lettres que André avait écrites chez Éric Henry l'avant-veille de sa mort.
Puis, on a des extraits d'ailleurs dans la BD.
Oui, il y a des extraits. D'ailleurs, Éric Henry ne les a pas lus jusqu'à ce jour. Donc, quand je vais y apporter la bande dessinée, il va
découvrir.
Il va les découvrir sur son papier qu'est-ce qui a été écrit. Mais parmi ces lettres-là, elle m'a apporté une lettre qui a été donnée, je ne sais pas si c'est par erreur ou quoi, par le coroner, au mois de décembre 2000. Donc, une fois qui a fait son rapport, il a donné, il a redonné les papiers à qui de droit. Puis il était question de Célanie dans cette lettre-là, mais c'était par rapport aux autres lettres, celle-là était écrite au jeu. Puis c'est le morceau du puzzle que je cherchais. C'était le Polaroid, en fait, de qu'est-ce qui se passait dans sa tête, son état mental. Puis ça, c'était un grand moment d'émotion, elle puis moi. Elle était chez nous, puis quand j'ai vu ça apparaître, quand elle m'a sorti ça, j'ai dit, mon Dieu, OK. Comment je pourrais dire? Puis qu'est-ce qu'il disait là-dedans? C'est dur pour Célanie. Hein, je veux dire, j'hésite entre telle femme puis telle autre femme, puis bon, j'arrive pas à me faire une idée. C'était la quête de l'amour absolu, en fait. Il était dans une spirale, il n'arrivait pas à trouver la porte de sortie.
L'amour absolu pour tout, aussi pour le pays. Ça aussi, ça l'a complètement affecté, pour employer peut-être cet euphémisme-là, le fait qu'en 95, la souveraineté n'avait pas passé pour lui, là, c'était une de ses causes.
Oui, ben lui, tout simplement, il trouvait juste que c'était pas normal qu'on ait juste pas notre voix à l'international, qu'on puisse pas avoir droit au chapitre en matière des traités, en matière de présence, une équipe de hockey nationale. Pour lui, c'était tout naturel, alors que quand il a vu le résultat, ça l'a mis à terre. En fait, il faut dire que Pat Esposito était mort l'année précédente.
Mm-hmm. L'harmoniciste du groupe.
Premier vrai coup dur. Après ça, l'échec du référendum, ça a été terrible pour lui. J'ai encore, moi, l'image de André Fortin qui pleure dans les bras d'une femme que j'ai illustrée dans la bande dessinée. Puis cette femme-là, c'est devenue mon amie, c'est Lise Raymond. C'est quand même spécial. Puis l'année passée, justement, j'ai offert la planche originale à Lise là, pour qu'elle puisse... Ça revenait à elle, dans le fond. Là.
J'imagine sa réaction. Et il avait aussi une admiration sans borne pour René Lévesque. On le voit, d'ailleurs, dans votre BD. Et Christian Quesnel, je vois le temps filer, mais si on parlait, parce que vous êtes aussi BDiste, on parle beaucoup, beaucoup du propos du texte, mais le choix des couleurs a été déterminé de quelle façon? C'est en lien direct avec le propos?
Ben tout, absolument tout en bande dessinée est fait au service de la narration. Comme je disais, en tout cas, moi, j'essaie de pas trouver d'illustrer de gadget ou quelque chose pour faire un effet beau. J'essaie de faire quelque chose qui est au service. Comme au début, c'est très sombre. En fait, c'est les premières pages, on voit, c'est un topo de télévision de Radio-Canada où on voit Jim Cocker arriver, puis les journalistes se disent « Bon, ben ton voisin, Dédé Fortin, est mort, qu'est-ce que t'en penses? » Directement de même, le micro en dessous du nez, sans respect. Mais après, on tombe dans l'enfance. Le récit, vraiment, à partir de là, ça devient chronologique. L'enfance, c'est des teintes orangées, c'est le soleil, c'est le lac Saint-Jean. Ensuite, on tombe dans les années 80, puis là, c'est des couleurs fluo avec Cha-Cha da Vinci, puis tout ça. Donc, c'est quelque chose que je voulais emmener avec l'époque. Puis là, plus ça va, plus ça s'assombrit. Plus la lumière devient de plus en plus minuscule, de plus en plus...
Il y a des oiseaux tout le long.
J'ai mis des intermèdes, en fait, entre certaines sections pour laisser respirer le lecteur.
Ouais.
Puis en même temps, pour donner une ambiance.
Et à la toute fin, il y a des pages extrêmement émouvantes, des caricatures qui ont été faites en lien avec Dédé et sa disparition. Et puis aussi des dessins faits par les impatients. Et ça, est-ce que c'est votre idée?
Oui, ben je connais bien Jean-Bernard Trudeau, qui est très impliqué au niveau de cet organisme-là, des impatients, que je trouve que c'est un organisme qui est tout à fait qui était tout à fait approprié de collaborer avec eux. J'étais curieux de voir pour des gens qui font partie de la clientèle, qui ont des problématiques de santé mentale.
Oui, il faut dire que les impatients ont pour mission, je lis ici, de venir en aide aux personnes ayant des problèmes de santé mentale par le biais de l'expression artistique. Et il y a des dessins colorés ou non, des impatients à la toute fin. Et c'est vraiment émouvant. En fait, L'ouvrage est émouvant de A à Z. Et là, il y a Carl Tremblay qui vient de nous quitter. Pensez-vous que Dédé va l'accueillir?
Ah, certainement. Certainement, ces deux-là, je pense, sont faits pour s'entendre. C'est fou que ça arrive en ce moment. Je veux dire, moi, ça, j'ai su ça hier soir, juste avant le lancement. On était tous complètement... Jim Corcoran était là, on était choqués. Là. On était vraiment... Ouais. Mm. On se doutait bien, là, mais je veux dire, c'est toujours un choc quand même, partir si tôt, en fait.
Ouais,
alors,
ouais.
Alors qu'on a encore beaucoup de choses à dire à cet âge-là.
Christian, j'invite les gens à découvrir votre BD. Je dirais que c'est une œuvre d'art bouleversante. Merci beaucoup pour ça, puis on va vous voir dans les salons du livre, celui qui s'en vient, notamment à Montréal, à partir du 22 novembre. Vous allez passer pas mal de temps
24,
là-bas.
24, 25, 26, je vais être là, oui.
Parfait. Merci encore. Je rappelle que votre BD est publié aux éditions Libre Expression. On va se laisser avec un petit bout de votre chanson préférée des colocs. Et puis moi, je vous dis, chers auditeurs et auditrices, à la semaine prochaine. Merci toute l'équipe. Merci Mathieu.